Chapitre 8. Memento Mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Face à l'écran d'ordinateur, les yeux de Charcot brillaient dans le clair-obscur de son salon. La locution latine, écrite sur la carte de visite dénichée chez Doty, offrait une vision de la condition humaine destinée à rappeler que la gloire, le succès, la jeunesse et toutes les actions que nous entreprenions se heurtaient tôt ou tard à un brutal couperet qui finissait toujours par tomber, la mort. Suite à ses recherches, Franck avait appris que cette pensée avait engendré de nombreuses productions artistiques. De site en site, il observa ainsi les vanités, les multiples représentations de la faucheuse, les danses macabres, les natures mortes, les architectures funéraires. Une forme d'art parallèle, sombre, qui témoignait du fait que l'homme cherchait à percer ce mystère immémorial. Qui avait-il une fois le dernier souffle rendu? Que devenait l'âme quand le cœur s'arrêtait de battre? L'enfer et le paradis existaient-ils? Charcot ne bougeait plus, concentré sur les deux orbites creuses d'une tête de mort qui semblait lire en lui, encadrée par une fleur dans un vase et un sablier. Le tableau, de Philippe de Champaigne, s'intitulait « Vanitas ». Une réflexion de plus sur le caractère fragile et éphémère de la vie. Cette image puissante, glaçante, le renvoya à la triste réalité et à Audra. Le sablier avait-il commencé à s'égrener pour sa coéquipière? Est-ce que le grand squelette blanc l'emporterait une fois l'ultime grain de sable écoulé? Qui décide de ça? Se demanda-t-il. Il se recula dans son fauteuil et se frotta le coin des yeux. Récolta une larme, une perle précieuse et rare que personne d'autre que lui ne verrait jamais. Audra aurait pu être sa fille. Une fleur épanouie, engagée, brillante, qui s'apprêtait à donner la vie. Et bon Dieu, beaucoup trop jeune pour passer l'arme à gauche. Le cœur gros, il se rendit auprès de ses jumeaux qui dormaient d'un sommeil paisible. 9 ans déjà. Franck essayait de les préserver de la violence du monde, de les protéger avec la force ardente d'un père. Mais qui le protégeait, lui? Que deviendraient ses fils si un jour ils découvraient leur père ou leur mère branchés à des machines sur un lit d'hôpital? Il observa leur innocence encore un instant, puis il sortit de la chambre et referma la porte. Cette pensée d'un noir insondable le rendait malade. Quand plus tard Lucie arriva, il vit de quelle façon elle abandonna son blouson sur une chaise, et ce geste-là qu'elle déroula en tendant une main vers le chien venu chercher sa caresse. Aussitôt, il comprit que les réponses ne viendraient pas ce soir. À peine 2 jours depuis le drame, et ils étaient déjà moralement à plat. « Rien ?» l'interrogea-t-il. « Rien. » Minuit approchait. Elle alla boire un verre d'eau qui lui parut bien fade, resta immobile face à la fenêtre qui donnait sur un ciel sans étoiles quelques secondes, et revint vers lui. Là, elle l'entoura de ses bras et se serra contre lui, par derrière, enfouissant son nez dans l'épaule solide et rassurante qu'il lui offrait. « C'est tellement dur. » « Je sais. N'oublie pas qu'Audra est une battante. Elle n'a jamais rien lâché. Elle ne laissera pas tomber Nicolas. Ni le bébé. » Lucie aurait aimé le croire, mais même ceux qui luttaient comme des diables finissaient par partir. Et les prières, les bonnes paroles de chacun n'y changeaient rien. On essayait juste de se convaincre que tout irait mieux. « L'IGPN t'a auditionné ?» s'enquit-il en lui attrapant les mains. « Oui, et je n'ai fait que relater la stricte vérité. » Ensemble, ils se turent, plantés là, sans bouger, assaillis par les images de cette fameuse nuit où tout avait basculé. Puis Lucie, qui remarqua l'image affichée sur l'écran de l'ordinateur, observa à son tour le tableau évocateur du peintre français. Il dégageait une sinistre beauté. Les orbites de ce crâne étaient 2 gouffres qui vous aspiraient et vous invitaient à songer à ce qu'il y avait au-delà de la mort, le néant. « Je vais avoir besoin de ton aide, Lucie. »
« Quel genre d'aide ?»«
D'abord, comment ça se passe avec Mortier ?»«
On fait aller, Je me dis que c'est juste pour quelques jours. En revanche, c'est sûr que je ne pourrais pas bosser avec un type comme lui sur le long terme. Il n'est pas méchant, mais il y a un truc qui cloche. Et t'as nourri mes poissons? Elle acquiesça, Charcot et ses fixettes. L'enquête, vous en êtes où? Demanda-t-il finalement. L'épagneul revenait à la charge. Lucie s'accroupit et lui accorda les câlins qui l'attendaient. Parfois, elle enviait ces bêtes qui n'avaient d'autre dessein que d'offrir de l'amour. On priorise sur Fermont. Géco veut qu'on prouve sa culpabilité à 100% et, comme il est mort, c'est plutôt difficile de le faire parler. Bornage de son portable, ADN, activité informatique, on épluche tout. Ligie se concentre sur son camion et la salle de torture. On doit aussi s'assurer qu'il n'y a pas eu d'autres victimes. Entre ça et l'hosto, les journées vont être longues. En réponse à ce résumé, Franck lui tendit les feuilles du profil ADN qu'il avait jusque-là gardé au fond de la poche de son blouson. Lucie fronça les sourcils quand elle en découvrit le contenu. Cette histoire de col du fémur lui était complètement sortie de la tête. « Oui, ça a matché », confirma-t-il devant son étonnement. « La donneuse s'appelle Emma Doty. J'ai récupéré son adresse et je suis allé faire un tour chez elle aujourd'hui. Tu déconnes ?» Sans se démonter et brandissant les photos prises avec son portable, il lui raconta son intrusion, sans casse, chez Emma Doty. L'ambiance mortifère qui régnait dans le loft, sa rencontre avec la voisine. Lucie n'en croyait pas ses oreilles. « Il faut que tu m'aides à retrouver cette femme. » « Rien que ça. Et tu m'expliques comment ?»« Demain, tu vas contacter le technicien du FNEG pour lui demander s'il a obtenu un retour au sujet du profil du col du fémur. » Il te répondra qu'il m'a déjà envoyé les résultats. Tu prétendras que je n'ai pas pu les lire, vu la situation, et qu'il faudrait qu'il te les renvoie. Ensuite, tu les transféreras à Mortier. Puis, tu insisteras pour t'occuper de la partie Doty. Puisque le dossier ne l'intéresse pas, Mortier ne devrait pas te mettre de bâton dans les roues. Lucie n'avait pas la force d'entrer en conflit avec son mari. De toute manière, elle ne se faisait pas d'illusions. En attendant son retour au 36, il n'allait certainement pas se planter sur un canapé à faire des mots croisés. Même s'il s'était calmé après la naissance de leurs jumeaux, le Charcot de jadis avait toujours transgressé les règles, d'une façon ou d'une autre. Et le cap de la soixantaine n'y changeait rien. Emma Doty s'est absentée sans prévenir, et ne donne plus de nouvelles depuis 3 mois, continua-t-il. Il y a des signaux dans l'air qui font que je ne le sens pas. Tu penses qu'il lui est arrivé quelque chose? Tout ce que je sais, c'est qu'on a découvert un de ses os dans le corps d'une autre et qu'on doit remonter cette piste. Dès demain, quand Mortier sera informé pour le FNEG, tu lances des requêtes. Téléphone portable, compte en banque, internet, tu retrouves son médecin traitant et tu te rencardes sur cette histoire de col du fémur. Si vous vous rendez sur place à plusieurs, tu t'occupes de la voisine. Elle vous permettra d'entrer chez Doty. Tu dois lui parler en premier et l'interroger pour couvrir ma venue. Un autre truc. Doty est fiché au FNEG pour vol ou tentative de vol, mais il n'y a pas de détails dans le TAJ. Je veux savoir précisément ce qui s'est passé. Lucie avait l'impression d'être au bureau, en plein brief d'équipe. Sauf que cette fois, Franck lui refilait du boulot pour 4. Il voulait tout contrôler, plus que jamais. Si je fais la moitié de ce que tu me demandes, estime-toi heureux. Et toi là-dedans ? Il lui montra la photo de la carte de visite. « Je garde une longueur d'avance.